tous. Ce matin, je vais partager avec vous un texte. On est le 1er décembre. 1er décembre, donc ça m'a semblé approprié. Je voudrais partager avec vous un texte de l'Écriture qui parle d'un jeune garçon, d'un jeune enfant de Bethléem. De qui vais-je parler ? Il n'y a pas. Au mois de décembre, un jeune garçon de Bethléem, de qui vais-je parler ? De Jésus ? Oui ? Perdu. Me connaissant, il n'y a pas de réponse parce que vous dites il y a un piège, je ne vais pas répondre. Je suis trop connu dans mes ficelles. J'aimerais vous emmener dans le récit que l'on trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 17 et à partir du verset 33, on va parler de David. Et on ne va pas parler de David sur des épisodes, je dirais peu connus, mais sur l'épisode le plus connu de son histoire. Donc c'est le combat de David contre... Ouais, pas de piège là, vous pouvez y aller. Vous devenez méfiant, c'est pas possible. Alors, 1 Samuel, à partir du verset 13, oh, on va même aller un peu plus loin pour pas faire une trop longue lecture, et puis on fera un résumé de ce récit. David est donc le fils de Isaïe, une famille qui est à Bethléem. Bethléem, c'est vraiment la ville à partir de laquelle les promesses de Dieu au niveau messianique sont établies. Il faut se rappeler, rappelez-vous l'histoire, le retour d'Égypte, Israël qui va conquérir la terre promise, et puis à un moment donné, il y a la période des juges où on essaye d'installer la théocratie, un pays où Dieu règne, et puis à un moment donné, il va y avoir des juges, Israël s'éloigne, revient vers Dieu, s'éloigne, et il y a des personnalités marquantes, Samson et autres, qui vont être des juges comme Gédéon, et qui vont essayer de ramener toujours et constamment le peuple de Dieu dans le pays de la promesse et dans les promesses et dans l'alliance avec Dieu. Et puis il y a une jeune femme qui est étrangère et qui épouse un juif qui est parti s'installer en Moab et puis qui revient à Bethléem et elle donne naissance en faisant alliance avec Boaz, un homme renommé et de qualité de la ville de Bethléem. Elle donne naissance à son premier-né. Il est dit que les promesses de Dieu s'étaient attachées à cette famille et à cette femme et que le Messie arriverait dans sa lignée. Et on se retrouve bien des générations après, enfin deux, trois générations après, à Bethléem, avec Isaïe, qui est l'arrière-petit-fils de cette femme, et qui a 8 fils, et le plus jeune, c'est un certain David, et puis Saül, qui est le premier roi d'Israël qui a été choisi par Dieu et à la demande du peuple, fait la guerre aux Philistins, et les trois premiers-nés d'Isaïe vont accompagner Saül dans ses combats. Et puis, alors qu'ils sont au combat, le père envoie son plus jeune fils, David, aller les rencontrer, prendre de leurs nouvelles, etc. Il dit que quand il est arrivé en leur demandant quelle était la paix qu'ils avaient, c'est-à-dire comment ils se portaient. Et puis... tout le monde est là, et puis dans cet épisode, on voit que les deux armées se font face, Israël d'un côté et puis les Philistins de l'autre, et qu'il y a tous les matins un type qui sort du camp des Philistins, un géant qui était énorme, impressionnant, et qui provoquait en combat singulier n'importe quel juif qui voudrait le confronter. Et arrive David dans ce camp. Et voilà ce qu'il est écrit à partir du verset 26 du chapitre 17 du premier livre de Samuel. Alors, j'avais mis une minuterie pour être sûr de ne pas déborder. Je sais qu'après, vous ne me croyez pas, mais c'est vrai. Hein. Donc David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël ?» Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant ? Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, « Voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. » Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert ? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je fait jusqu'à présent ? En voilà une affaire. » Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapportait devant Saül qu'il fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître le troupeau de son père, et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. » C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Juste après, Saül, pour essayer d'avoir une part active à ce combat, va revêtir David de sa propre armure, lui donner son bouclier, sa cuirasse et une épée qu'il avait. Et quand David essaye de marcher avec tout ça, il se rend compte que c'est pas fait pour lui. Et donc, il va abandonner ses armes de Saül, il va prendre 5 pierres et il va s'avancer contre Philistin. Et vous connaissez ce qui se passe par la suite. Le Philistin, qui est étonné de voir un jeune homme, c'est vraiment un très jeune homme, venir à sa rencontre, dit « Mais est-ce que je suis un chien pour qu'on m'envoie quelqu'un comme ça, de cette taille-là » Enfin, c'est un manque de respect. Et puis, vous connaissez David qui va prendre sa fronde, mettre une pierre, frapper le Philistin au front, qui va pénétrer cette pierre dans le front du Philistin, qui va tomber visage contre terre. Et David va se servir l'épée de Goliath et lui couper la tête. Voilà, en gros, l'histoire que nous avons sous le regard. Hein, vous me direz, pourquoi choisir ce matin un texte de cette nature-là, le 1er décembre ? Hein, j'étais hier au marché de Noël, et je vous invite à y aller à Plumeur. C'est vraiment un espace assez extraordinaire. Et puis, on a une équipe qui est là et qui annonce par sa présence la bonne nouvelle. Il y a un très grand écriteau qui a été bien, bien pyrogravé sur une planche de bois par Christine, où il y a marqué « Noël, virgule, bonne nouvelle, point d'interrogation ». Et le point d'interrogation, c'est en fait, je suis resté une heure, c'est le point d'interrogation qui m'a fait engager la conversation avec un couple âgé qui venait et dit « Pourquoi le point d'interrogation ?» La bonne nouvelle et Noël, c'est, non, mais pourquoi un point d'interrogation ? Et finalement, ce qu'il a lui posé question, c'est pourquoi ne pas penser directement, naturellement, alors que des milliers de personnes, parce qu'il y a vraiment des milliers de personnes qui viennent à ce marché de Noël, c'est impressionnant, hein, c'est une foule. Et quand je suis parti à 18h30, j'arrivais pas à sortir tellement, il y avait une très très grande route, elle était remplie de personnes qui allaient au marché, qui rentraient, c'était l'heure d'affluence. Et en fait, je disais à ce couple, la question se pose, est-ce que Noël est toujours une bonne nouvelle ? Et finalement, on a eu une discussion comme ça. Et quand je lui ai dit, mais vous savez, nous, on est là justement parce qu'on croit que Noël, ce n'est pas la fête du saucisson et du vin blanc. Ben oui, des bijoux, des lampes, des ceci, des ça. Alors c'est magnifique, il y a vraiment de très très belles choses. Hein. J'en dis ce qu'on vient pas. Mais la question c'est, est-ce que Noël est toujours le temps de la révélation messianique pour le peuple d'Israël et pour le monde, l'envoi de celui qui vient résoudre la question primordiale de l'humanité, comment retrouver une relation avec, avec Jésus. Super, Christophe. Bon, c'est dommage, je suis de dos. Il manquait quelque chose. Non, laisse comme ça. Donc, ce texte-là, je l'ai choisi parce qu'on est à Bethléem dans la, la révélation qui va s'accomplir de la venue du Messie. Et on est là dans ce chemin de révélation avec Dieu qui accomplit son plan quoi qu'il arrive, quoi que les hommes décident et fassent, la pensée de Dieu, le plan de salut de Dieu s'accomplira. Et ici, on est dans une de ces étapes lorsque Dieu choisit un successeur à Saül. Beaucoup de théologiens et de pères de l'Église ont considéré que David avait des traits et des caractéristiques messianiques, certainement parmi les plus importantes parmi tous les personnages de la Bible. Certains sont vraiment dans l'expression de leur vie, je pense à Joseph dans la Genèse, mais aussi à Moïse et à d'autres. Ce sont des images, ils caractérisent des éléments de messianiques qu'on va retrouver à Jésus. David est considéré comme un de ceux qui est un type de Christ parmi les plus évidents. Alors, ça m'a semblé intéressant qu'on puisse s'arrêter quelques instants sur ce texte. Ce récit, on pourrait dire qu'il revêt un caractère qu'on trouve aujourd'hui dans les films ou les romans qu'affectionnent beaucoup les jeunes ados, ou les pré-ados ou les jeunes gens qu'on appelle l'heroic fantasy. Vous savez, c'est ces héros qui mettent en scène, qui sont mis en scène dans des histoires et des héros dont le caractère est caractérisé par le courage, mais sans que leur personnalité, leur capacité ne les prédispose à vaincre les ennemis environnants. Et puis, il va se trouver que ces héros, tout à coup, vont venir au centre et remporter des victoires. C'est ce qu'on vient de chanter. Victoire au Seigneur de la vie. Et David, il a ce profil presque d'heroic fantasy, une belle personnalité, mais rien ne le désigne comme un héros de Dieu. Rappelez-vous de la manière dont Saül a été choisi. Dans 1 Samuel 9, il est dit que donc le roi précédent, qui est en train d'être rejeté par Dieu à cause de son comportement, il est dit qu'il était le fils d'un homme puissant et important, et qu'il était un homme d'élite et beau, plus beau qu'aucun des Israélites, et les dépassant tous de la tête. Pas rien quand même. Je redis, j'ai l'impression qu'on parle de moi. Un homme d'élite et beau, plus beau qu'aucun des Israélites, et les dépassant tous de la tête. Vous verrez qu'après, il faut que je fasse preuve d'un peu de modestie, parce que c'est une des caractéristiques de ce texte. Voilà le profil du premier roi. David n'y colle pas à l'histoire. Quand Samuel, pour choisir le deuxième roi, va chez Isaïe, il y a 8 enfants, il y en a 7 qui sont devant lui, puis alors, des costauds, des baraques, des hommes là un peu dans le profil de Saül. Hein. Il y en a un modèle, oui, il aurait pu être, Michel aurait pu être dans la liste, voilà, imposant là, voilà, face à l'adversaire. Mais moi à côté, bon. Hein. Eh bien, quand il va chez Esaïe, les 7 sont rejetés par Dieu. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Et les 7, au point que Samuel se dise, mais alors, il en manque un. Alors, et puis le père dit, oui, bien sûr, il y en a un, mais c'est le petit, il compte pas. Hein. Il est au champ, il garde les moutons, un berger. Là aussi, une caractéristique messianique, un berger. L'Éternel est mon berger. Le Christ, c'est le berger de nos âmes. Eh bien, le petit dernier qui est en train de garder les moutons, il le fait venir, et Dieu dit, ben voilà, c'est celui-là. Moi, j'aurais été à la place de Samuel, j'aurais dit, attends, Seigneur, Le premier, oui, il avait la prestance, il avait l'allure, il avait les caractéristiques de quelqu'un qui en impose. Mais enfin, celui-là. Et vous savez quoi? Ça me rassure de voir la manière dont Dieu dit, c'est avec les choses faibles de ce monde que je glorifierai mon nom. Parce que ça me laisse à moi et à toi de l'espérance dans ce que Dieu peut faire au travers de ta vie. Si comme David, tu es prêt à te consacrer à son service. En fait, dans ce texte-là de David et Goliath, il n'y a pas simplement une histoire de victoire, de combat déséquilibré entre un jeune homme et un géant. Ce texte-là est rempli d'éléments spirituels, j'irais même de principes spirituels. Si nous sommes attentifs à ce texte, nous voyons que les différents acteurs de ce texte agissent, se positionnent les uns par rapport aux autres et face aux événements en prenant des postures qui révèlent leur choix spirituel, leur soumission soit à la chair ou leur désir profond et sincère d'agir pour et avec Dieu. Ainsi se pose cette question-là lorsque nous lisons ce récit. Quelles sont nos motivations lorsque nous avons à prendre parti dans ce monde face à l'adversité, devant la provocation de l'adversaire, dans notre considération des forces de l'ennemi qui se trouve face à nous, quand on est confronté à notre propre faiblesse? Quel est le soutien que nous pouvons apporter à ceux qui se présentent en première ligne? Comment nous équipons-nous pour combattre l'ennemi et ses puissances? Quelles sont les forces que nous mobilisons et sur lesquelles nous comptons pour résister à l'adversaire de notre âme? Dans ce texte-là, il y a tous ces principes spirituels. Si je prends un des éléments ou un des personnages de ce récit, et dont on parle très peu, c'est Éliab. Éliab, c'est le frère aîné. Il y a 8 enfants, lui, c'est le plus costaud. Il y a 2 autres frères, on en entend parler un petit peu, mais guère plus. Et puis, il y a Éliab qui est présent et se pose pour lui la motivation de son frère à être là sur le champ de bataille. Alors, j'ai envie de dire, là aussi, il y a des questions à se poser sur les principes spirituels qui soutiennent nos réflexions. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi tu es là? Enfin, moi, je suis là, mais ça se comprend. Mais toi, pourquoi tu es là? T'es pas vraiment à ta place. Dans l'Église, on peut vivre, et dans le peuple de Dieu aujourd'hui aussi, ce sentiment d'être interpellé par ceux qui ont de la prestance, par ceux qui ont un ministère, par ceux qui sont là et légitimes, et se dire que nous, finalement, oui, on n'est pas à notre bonne place et on a juste à être là et à valoriser la chaise sur laquelle nous sommes assis. Éliab interpelle son frère. Alors, est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est, je dirais, peut-être une manière de défendre sa propre incapacité? Parce que lui, il est là avec ses 2 autres frangins. Mais quand Goliath sort, il n'y en a aucun qui dit j'y vais et je vais me confronter à cet adversaire. Donc voir le petit frère ici, c'est peut-être une forme, un regard qui est pas supportable, pas facile à accepter parce que on n'est pas dans une attitude de victoire. Et puis il y a des paroles qui sont prononcées. Comme celle de Saül à David, mais non, tu peux pas aller te frotter, te coltiner avec Goliath, c'est pas possible, tu ne peux pas. Ah, combien d'entre nous ont été élevés dans le culte du tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu n'es pas à ta place et tu ne peux pas. Combien d'entre nous ont de ce fait avancer dans la vie avec un sentiment d'incompétence et d'incapacité. Et quand nous entendons que nous sommes victorieux, on dit oui, bien sûr, théoriquement. Mais on m'a tellement dit que je ne pourrais pas. Ma mère m'a fait entrer en mécanique à l'âge de 15 ans. J'avais jamais tenu un tournevis ou une clé à molette. Mais elle avait besoin d'argent, donc... Donc, j'ai eu le sentiment que je devais arrêter mes études en troisième et que je devais aller travailler en usine. Et après, j'ai cultivé le culte, je ne peux pas faire autre chose. Je ne suis pas capable. Quand je suis parti au collège biblique, c'est Michel et deux autres frères, en tout cas lui et un autre frère, qui m'ont montré qu'on pouvait vivre autre chose et que peut-être, je dis bien peut-être, je pouvais étudier la parole de Dieu. Et quand je regardais Michel et Albert, le soir, pendant 2, 3 heures après les cours, continuer, je dis, bah, peut-être. Bah, je les ai imités. Oh, je croyais pas plus en moi, mais je les ai imités. Et souvent, imiter l'autre dans sa démarche spirituelle, c'est ce qui nous permet de commencer à entrer. Vous savez, l'imitation n'est pas forcément négative, il ne faut pas rester dedans. Mais au début, quand on ne sait pas comment faire, comment se comporter dans notre vie avec Dieu, dans notre relation, dans notre vie de prière, dans notre lecture, bah, on regarde l'autre, on écoute comment il le vit, et puis on essaye de trouver son propre chemin. Moi, c'est Michel et Albert, un frère de Bruxelles, qui m'ont dit, bah voilà, cherche ta route à toi. Ah, j'ai pris des chemins de traverse, je me suis parfois planté, mais en les regardant, je me suis dit, peut-être que c'est possible et que tu ne peux pas peut être balayé afin que Christ me dise par l'Esprit Saint, voilà, tu peux avancer. J'ai déposé en toi des trésors, des compétences, des capacités. Tu peux. Il y a un musicien, j'aime beaucoup le jazz, il y a un musicien que j'ai beaucoup aimé, qui est décédé il y a presque 20 ans, suite à son hospitalisation à Kerpap. C'était un homme qui s'appelait Michel Petrucciani, certains le connaissent peut-être. Il était tout petit, il mesurait 1,40 m, 1,50 m. Il était atteint de la maladie des os de verre. Quand un jour ses parents lui ont dit, bah, il ne pouvait pas faire de sport, rien, qu'est-ce que tu veux? Il était tout petit, il a dit un piano. Ah bon? Qu'est-ce que tu vas faire avec un piano? Tu peux pas. Tu peux pas jouer. Enfin, c'est pas. L'espérance de vie quand même limitée. Il faut qu'on te protège, qu'on te mette dans un cocon. Enfin, tu peux pas. Il a eu son piano. Il est devenu un des plus grands pianistes. Il a intégré et est parti en tournée mondiale avec Charlie Lloyd, The Bird, pour ceux qui connaissent. Et il a été considéré comme un des génies dans sa composition d'un jazz plein de virtuosité. Et il disait, je ne crois pas au génie. Je crois seulement au dur travail. Et il a été hospitalisé plusieurs fois à Kerpap suite à des fractures. Quand il allait en concert, c'est son garde du corps qui le portait dans ses bras pour l'asseoir au piano. Mais une fois qu'il était au piano, tu peux. Tu peux devenir ce que Dieu a prévu que tu sois. Ça ne changera jamais. Je ne changerai jamais. C'est impossible. Lui, c'est un homme de guerre, dit Saül. Toi, t'es jamais qu'un gamin. Oui, mais moi, je marche au nom de l'Éternel des armées. La parole de Dieu est remplie d'exemples où le croyant a regardé à l'adversaire plus qu'au Dieu qui l'accompagnait. Rappelez-vous les espions qui vont dans Nombre 13, verset 33, dans la terre des. Mais il y a plein de géants dedans. Comment voulez-vous qu'on aille conquérir cette terre? Et dans notre vie, nous sommes aussi avec ce regard plein d'incrédulité, à la fois sur nous-mêmes, mais et surtout sur Dieu lui-même. Douter de nous, ce n'est pas grave, mais douter du Dieu avec lequel nous faisons alliance. Laisser penser que ce Dieu-là n'est pas capable de vaincre l'ennemi et l'adversaire de nos âmes. Regarder à l'adversaire, c'est le plus sûr moyen pour errer dans le désert. Alors, tu erres dans le désert depuis combien de temps? Parce que tu regardes davantage à l'adversaire qu'à celui qui a gagné ta vie et qui veut te voir devenir ce que tu es. Pour nombre de pères de l'Église, David combattant le lion et l'ours préfigure Christ combattant Satan. C'est le père d'église Hippolyte de Rome qui vivait entre 170 et 234. Il disait « David était un enfant et faisait paître les brebis de son père, tout comme le Christ est devenu un enfant venu du Père et par là se manifesta aux saints comme le pasteur véritable venu du Père. » Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Dieu me délivrera. Et le passé vécu en Dieu permet de vivre les épreuves du présent. Est-ce que tu te rappelles de ce que Dieu a fait hier pour toi? Alors s'il a fait cela pour toi, s'il t'a permis de vaincre le lion et l'ours, et t'en as peut-être croisé, alors peut-être pas des vrais, hein, mais... tu as vaincu avec Dieu des choses. Tu as vaincu la mort, le péché, en te présentant à la croix. Si tu as vaincu et si tu as eu la victoire qui se trouve en Christ, alors ce que tu vis à l'heure actuelle, ne le regarde pas comme une épreuve insurmontable. Dis-toi que Dieu, en Christ, te donne d'être victorieux. Dieu me délivrera. Dans mon passé, voilà ce que j'ai vécu. Eh bien, je vais m'appuyer sur les promesses de Dieu dans sa parole, plus que dans les paroles de l'adversaire, même si cet adversaire, c'est mon frère aîné. Vous savez, dans l'église, parfois, vous avez des frères et des sœurs, ils sont géniaux pour vous dire ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne pouvez pas devenir. Ah ouais. Je ne sais pas si tu m'écoutes, mais il y a un frère que j'aime beaucoup et qui écoute les prédications. Et il me disait il y a une semaine et demie, quand je suis allé au collège biblique après un cursus de plusieurs années, il avait fait plus, tu m'entends? Tu écoutes? Le directeur l'a convoqué dans son bureau. Et puis il lui a dit... tu sais, tu ne seras jamais pasteur. Tu ne serviras jamais Dieu. Tu es bon pour pousser une brouette avec une pelle, mais le restant, il faut que tu abandonnes. Tu m'entends? S'il m'écoute, j'aimerais qu'il comprenne que c'est de lui que je parle. Il vit du côté d'Amiens. Tu m'entends? Ça a été le meilleur, c'est le plus beau pasteur que j'ai jamais connu. Un homme d'une qualité exceptionnelle qui m'a appris à être et à devenir, qui m'a fait comprendre que j'étais important. Ça a été une des personnes les plus importantes dans ma vie. C'était un vrai berger. Mais il y en a plusieurs qui lui ont dit, dont le grand responsable, le grand Manitou, fondateur du collège biblique, lui a dit... prends une brouette et une pelle. Ouais. Parfois, ceux qui nous entourent, nos proches, mon mari, ma femme, mon pasteur, peuvent avoir des paroles destructrices, cassantes, qui m'empêchent de devenir ce que je suis. Éliab, le frère aîné, il s'appelle Éliab, c'est-à-dire Dieu est mon père. Son frère en dessous, il s'appelle père de générosité, Abinadab. Waouh. C'est autre chose que moi, je m'appelle Dieu a donné un marteau. M'étonner que ma mère m'ait envoyé en mécanique. Et puis le troisième frère, il s'appelle Shama. Ça veut dire étonnement et désolation. Tiens, celui-là, on se dit... Mais quand on regarde ces trois frères, on sent qu'il y a des noms qui dirigent le regard vers Dieu ou dénotent pour le moins des positionnements spirituels supposés. Dieu est mon père, Éliab. Ah oui, Dieu est son père, mais pas sûrement celui de son petit frère. Dieu est mon père à moi. Oui, mais n'empêche que Dieu est ton père, mais quand Goliath y sort, t'y vas pas. Abinadab, pareil. Et puis, Shama, étonnement et désolation. On sent que dans Isaïe, quand il a choisi le présent, ça s'est dégradé. Hein, mais il y a eu quand même David qui est arrivé comme le dernier. Celui qui est aimé. Celui qui est aimé. Éliab est enflammé de colère. Quelle est l'intention de David ? Il dit clairement, en posant ces questions, « Je voudrais savoir ce qui sera fait à celui qui s'opposera à l'adversaire. Qu'est-ce qu'il va lui advenir ?» Et les gens, on ne sait pas. On sait qu'il y avait la promesse éventuellement d'avoir la main de la fille du roi, etc. Mais on ne sait pas ce qui est promis. Qu'est-ce qui va être fait à celui qui se dressa contre l'adversaire ? Il va grandir. Il va accomplir les promesses de Dieu. Il va donner à ce monde une espérance. Est-ce que c'est ton appel à toi aussi, à moi ? Qu'est-ce qui me sera fait ? Oh, je ne vais pas devenir beau, riche et célèbre, mais je vais rentrer dans les promesses de Dieu. Je vais être participant au plan de Dieu. La réaction d'Éliab, il réagit en aîné. Moi, je suis l'aîné de 8, comme la fratrie de David. On était 8 aussi. Mais on avait 4 garçons, 4 filles. Donc, là, il y avait des filles, hein, mais on ne les cite pas. Comme quoi. La réaction d'Éliab, c'est de réagir en aîné. Et il a peur de perdre sa prééminence. C'est moi l'aîné, qu'est-ce que tu fais là ? Un peu comme dans l'église, parfois vous avez des aînés spirituels qui sont là et au lieu d'être des modèles d'encouragement, encouragés. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui m'a dit une fois, mon service, mon ministère, c'est d'encourager. Éliab, il n'encourage pas, il reproche à son frère. Pourquoi est-ce qu'il reproche ? Il faut se poser les questions. Éliab, il est l'aîné. Il a peur de perdre sa prééminence dans la fratrie. Pousse-toi, c'est moi l'aîné, tu n'as rien à faire ici. Vous connaissez en économie le principe de Peter ? Non ? Vous en avez entendu parler peut-être un petit peu ? Moi j'aime beaucoup ce principe. Le principe de Peter, ça a été développé dans les années 50 du siècle dernier pour étudier la dynamique du fonctionnement des organisations et des entreprises. Et Peter, qui était un économiste, je crois, américain, a développé un principe qui, au début, a choqué un peu les spécialistes de l'étude des organisations. Ce principe dit ceci. Pour un responsable, à quelque niveau qu'il soit dans la chaîne de la structure, le principe à appliquer, c'est d'amener les subordonnés à leur plus haut niveau d'incompétence. D'incompétence. Moi, quand mon prof d'économie m'a expliqué ça, je dis, mais c'est pas logique, ça. Moi, je suis directeur, ou je vais être directeur. Je trouve que c'est pas logique. Il dit, si. L'étude des organisations a démontré que, dans le principe de Peter, ce qui se vit, c'est cela. C'est que quand on est à un certain niveau élevé, ce qu'on veut, c'est amener l'autre à son plus haut degré d'incompétence. Mais surtout pas développer sa compétence pour qu'il nous dépasse. Parce que si on fait cela, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il prend notre place. Donc, il ne faut surtout pas que ça arrive. Et l'étude des organisations dans les années 50 disait, ben voilà comment on fait. Surtout, à un moment donné, quand il arrive trop proche de soi, on ne lui donne pas plus de grain à moudre pour développer ses compétences et nous dépasser. Il faut qu'il reste juste en dessous. Et ça a été un principe qui a été observé dans la plupart des entreprises. Moi, j'ai eu de la chance. Il y avait un directeur là où je suis rentré et je crois que Dieu nous a conduits l'un vers l'autre. Et à un moment donné, il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour que vous puissiez progresser ? Et pendant pratiquement 10 ans, j'ai fait des formations. Et quand il est parti, j'étais directeur. C'est Dieu qui a conduit les choses. Éliab, il est dans cette crainte-là. Est-ce que moi aussi, dans l'Église, je considère que je suis là, non pas pour occuper une place de pouvoir et d'autorité, Et c'est comme ça que la vision apostolique a été, à mon sens, pervertie. C'est qu'on est resté, Dieu a donné, on l'a vu dans un groupe œcuménique récemment pour parler de l'Église apostolique, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes pour permettre l'épanouissement des saints qui se trouvent dans l'Église, des croyants. Et le petit mot « pour », il est essentiel. Les ministères n'ont aucun intérêt si ce n'est pas pour favoriser la croissance de ceux qui sont dans l'Église. On est hors du principe de Peter dans l'Église. Mais est-ce que je suis dans cette pensée-là quand je côtoie mon frère, ma sœur dans l'Église? Est-ce que j'ai cette pensée de le voir grandir, se développer? La crainte des hommes de voir l'autre me dépasser. Ce principe de Peter, j'ai envie de dire, il a un champ d'application infini et il y a une organisation dans laquelle peut-être, ou, enfin pour moi en tout cas, ce principe-là domine et continue de dominer, c'est la vie familiale. Pourquoi est-ce que les hommes ont tellement peur des femmes? Moi, je veux le dire, je crois que les hommes ont véritablement peur des femmes. Qu'est-ce que nous dit la Genèse? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Vis-à-vis! Pas derrière à cinq pas, hein? Vis-à-vis! Et dans la traduction d'André Chouraki, il dit « Je lui ferai une aide qui sera contre lui-même. » Contre lui-même. C'est une traduction très, très littérale de l'hébreu. D'autres traductions, c'est une aide semblable à lui-même. Mais Chouraki choisit la traduction littérale de l'hébreu « Je lui ferai une aide contre lui-même. » Et j'aime cette traduction parce que dans toute organisation, et c'est le propre de la démocratie, il s'agit toujours qu'un pouvoir dispose d'un contre-pouvoir. Un pouvoir qui a le pouvoir absolu, c'est une dictature. Mais une démocratie, c'est à chaque moment où il y a du pouvoir, mettre en place un contre-pouvoir. Si quelqu'un est directeur de magasin, par exemple, il va y avoir des contre-pouvoirs. Les pouvoirs publics qui vont lui dire « voilà ce que tu dois faire, quelles sont les règles pour vendre, pour garder les produits, pour les jeter quand ils sont périmés, etc. » Puis comme il est aussi directeur du personnel, il va avoir du personnel qui va être syndiqué. Oh, c'est pénible ces gens syndiqués, les syndicats, les représentants du personnel. Moi j'ai dû vivre avec cela. Mais qu'est-ce que c'est intéressant quand ce contre-pouvoir vient nous aider à construire, à bâtir, à développer la sécurité, mais aussi l'efficience du travail. Il ne faut pas penser que les contre-pouvoirs sont que des choses qui sont mises là pour nous empêcher d'avancer. Non ! Je sais, l'épouse dans le foyer, ça peut être... Non. Ça peut être le cas ? Oui ? Non ? Parfois, on entend des maris qui disent ça. C'est moi qui décide, heureusement, parce que s'il fallait en plus que je prenne la vie de ma femme, il n'est pas bon que tu sois seul, je te ferai une aide contre toi-même pour éviter que tu partes dans des directions. On dit amen. Je vois bien qu'il y a un peu de... un aspect un peu méditatif de certains hommes dans l'assistance. Et pourtant, je vous assure, cette aide que Dieu nous donne, si nous la vivons comme quelqu'un qui est mon aide contre moi-même, ça me permet d'avancer, de grandir, vraiment, et de m'épanouir. Alors, le point de vue qu'il y a dans ce texte, c'est aussi un point de vue où on est avec cette tentation de nous enfermer dans le découragement et le défaitisme. Regardez le peuple face à ce Philistin. Un peuple, un homme. Et tous tremblent dans leurs chaussettes. Et en fait, la raison principale du découragement et du défaitisme dans la vie des enfants de Dieu tient au fait que leur esprit et leur raison sont tenus captifs dans la prison du mensonge. L'adversaire ment depuis le livre de la Genèse. Vous savez, si vous mangez de ce fruit, oh, vous serez comme des dieux. Et il est dit qu'après, Ève a pris ce fruit-là parce qu'elle a cru au mensonge. Ce qui fait que le peuple d'Israël est dans le défaitisme et dans le découragement, c'est que le discours du Philistin est plus fort que la pensée, la parole de Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? C'est ce que le psalmiste dit à plusieurs reprises. « Espère en Dieu et tu le loueras encore. Il est ton salut et ton Dieu. » Psaume 42, 12. Pourquoi ? Alors moi, j'aimerais bien parfois qu'on puisse se poser cette question-là quand on est dans le découragement, dans le défaitisme. C'est de s'interroger. Pas d'interroger Goliath pour l'écouter. Pas d'interroger les circonstances, les difficultés. Non, mais de nous interroger. Pourquoi est-ce que la voix de Dieu est moins forte en moi que la voix de l'adversaire ou des circonstances? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu et tu le loueras encore. Pourquoi les Juifs sont, et les Israélites sont tremblants, paniqués, effrayés à la vue de Goliath? Parce que contrairement à David qui le regardait à la lumière de Dieu, ce qui est le juste regard, ceux-ci, oubliant qu'ils avaient un Dieu, croyaient au mensonge que l'apparence de Goliath dictait à leur raison. Et je suis certain que l'apparence des choses qui sont devant nous et qui nous font peur, à un moment donné, nous devons les regarder avec le regard de Christ, avec la lumière du Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Ceci n'est rien face à toi. Et puis, il y a dans ce récit une partie, je terminerai avec ça, prendre un équipement. Mais lequel pour aller combattre Goliath? Alors Saül, lui, il fait ce qu'il sait faire. Au verset 38, il revêt David de ses propres habits, il place sur sa tête, etc., etc. Et puis vous avez... faut imaginer la taille de Saül. Il est dit qu'il était grand, beau, fort, etc. Et une tête de plus que tous les autres Israélites. Et puis il donne ça à un petit garçon. Et parfois, vous savez, dans l'Église, on a tendance à vouloir équiper tout le monde des mêmes équipements. Bon, à partir de la semaine prochaine, tout le monde devra avoir le même équipement que Michel. Connaître la Bible de A à Z, de Genèse à l'Apocalypse, avoir au moins 5 crayons de couleur pour colorier toutes les thématiques, au moins 5 thématiques dans toute la Bible. Si vous pouvez faire ça d'ici à dimanche prochain, c'est l'équipement minimal. Non, c'est l'équipement de Michel. Son travail, sa connaissance qui correspond à son service, à son ministère. Quel est l'équipement qui est prévu pour toi, qui est adapté à celui que tu es, à celle que tu es? Ne t'embarrasse pas des armes de Saül ou de qui que ce soit. Deviens toi-même. Sois toi-même. Tu es une œuvre originale. Véritablement. Tu es mieux que Michel si tu deviens celui que tu es ou celle que tu es. Ne regarde pas aux armes de Saül ou de Michel. Et lorsqu'il est dit que... est-ce qu'il y a des... Ah oui, il y a des enfants avec nous. Je ne vais pas diffuser. Il y a la cuirasse, la protection. On retrouve tout cela dans Éphésiens 6 et dans Thessaloniciens. On parle du casque, de l'espérance, du salut. Il est même dit que, vous saviez que dans l'Écriture, il est dit qu'à un moment donné, Dieu lui-même se coiffe du casque du salut. Ça vous dit quelque chose, non? On retrouve ça dans Ésaïe 59, 17, pour dire qu'il va intervenir, le salut est sur Dieu, et c'est ce casque-là qu'il va déposer sur nos têtes. Savoir que nous sommes sauvés. 59, 17, l'Éternel se coiffe du casque du salut pour défendre l'homme. C'est-à-dire que le salut de l'homme est l'acte qui couronne toute l'œuvre divine. Alors, on a une cuirasse, on a un casque, on a une épée, etc. Et Bon, je ne vais pas la diffuser. Le Caravage. Le Caravage n'a pas un tableau. Je vous l'avais préparé, mais comme il y a une enfant dans la salle, je ne vais pas la montrer parce que c'est un petit peu gore. On y voit David. Et le Caravage, c'est un des peintres qui il a fait ce tableau-là en 1609. 1609. C'est un peintre assez extraordinaire. Il a faut pas faire sortir un enfant. C'est un peintre assez extraordinaire, un voyou. Autant vous avez Michel-Ange, Vinci, c'est des êtres un petit peu comme ça, d'une culture. Et le Caravage, c'est un voyou, il boit, il vit une vie de débauche, il est même accusé d'assassinat, etc. Et il a... Bon, bah, je suis désolé que d'avoir... C'était pas le but de faire sortir un enfant. Mais on va mettre le tableau, tu peux le mettre en grand, voilà. Le Caravage a peint ce tableau en 1609. Et on y voit David qui tient l'épée de Goliath, a priori, puisque c'est avec celle-là qu'il a tranché la tête. Et on voit la tête de Goliath dans sa main. Et quand il a peint ce tableau a été installé dans le palais Borghese à partir de 1650. Est considéré comme une œuvre majeure du Caravage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce tableau-là, la tête de Goliath, c'est un peintre, un ami du Caravage, qui a dit que cette tête-là, de Goliath, à votre avis, qui a-t-il utilisé comme modèle ? Lui-même. La tête, et c'est... C'est un ami du Caravage qui a dit cela. Voilà, dans ce tableau, le Caravage a utilisé son propre visage pour parler de Goliath. Et il y a dans l'attitude de David, dans ce tableau-là, une attitude non pas de victoire, mais d'un certain recul et d'une certaine retenue dans ce qui vient de se passer. Et je ne sais pas si tu arrives à zoomer sur l'épée qui est là. Non, c'est pas possible. Je sais pas, non. Ah, encore. Sur l'épée. Voilà. Voilà. Juste ici, vous voyez, il y a des lettres. Donc, ces lettres, c'est le H, le A, le S, le O et le S. Et en fait, le Caravage a mis ça sur cette épée-là. Parce que c'est un proverbe qui dit ceci, une expression latine qui dit « humilitas occidit superbiam ». En français, ça veut dire « l'humilité tue l'orgueil ». Et je terminerai avec ça, c'est-à-dire que dans notre combat, pour être victorieux de l'adversaire, de tous les Goliaths qui sont devant nous, le Caravage disait « c'est l'humilité ». Qui tue l'orgueil. C'est-à-dire que c'est l'humilité de David qui a tué l'orgueil de Goliath. Et quelque part, notre combat ne doit pas se situer sur le terrain de l'orgueil, de l'assurance en soi, de l'assurance de nos propres forces, mais dans l'humilité de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et cela, ça nous permet de nous débarrasser de tous les Goliaths qui sont sur notre route. L'humilité tue l'orgueil. Donc soyons les uns et les autres avec une lecture aussi de l'Écriture qui nous permette d'extraire ces principes spirituels qui nous concernent et que nous puissions, dans nos combats personnels, véritablement adopter les postures, les positions spirituelles que Dieu veut nous voir adopter. Merci Seigneur pour ta parole qui nous montre tellement les mystères de ce qu'il est bon et juste de vivre avec toi et pour toi. Tu connais tous les Goliaths qui sont dans nos vies aujourd'hui aux uns et aux autres. Donne-nous, comme David, d'avoir le courage de la foi, cette assurance d'être et de devenir ce que nous sommes en toi, quel que soit notre histoire, notre parcours, notre identité, les dons et les capacités que nous avons. Donne-nous de devenir véritablement des David, et au-delà des David, de devenir tout simplement Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous voulons vraiment, Seigneur, que ton Esprit Saint agisse en nous et nous amène plus en avant, capable de vaincre, d'être victorieux, non pas par nos propres forces, mais parce que Christ en nous est véritablement l'espérance de la gloire. Amen.